L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et bonjour à tous et à toutes et merci à Stéphane pour la programmation de cette musique bien nommée, bien en place sur les tirailleurs, des tirailleurs sénégalais, parce que l'Afrique dans tous ses états, évidemment, on parle d'Afrique avec Marie-Claude.
Mais tiens, comme c'est bizarre.
comme c'est étrange. Et avec nous, Marie-France, vous avez...
Marie-France,
on recommence tout, on ne peut pas, c'est en direct. Marie-Claude, vous avez invité Thibaut Bluy, qui est aussi finalement un frère pour vous, Marie-Claude.
Je dois dire oui, on ne se connaît pas depuis longtemps avec Thibaut, mais disons que voilà, Thibaut est journaliste de son état, ce qui c'était mon souhait de métier, puis bon, j'ai dû y renoncer à l'époque pour plein de raisons, et puis Thibaut nous a fait le plaisir d'écrire un livre qui a été d'ailleurs récompensé par des prix, qu'il a intitulé L'Observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso, et donc il va vous expliquer son aventure au sein de l'équipe.
Parce qu'il est là avec nous au studio.
Et il est là avec nous.
Merci Thibaut et bonjour.
Bonjour Thibaut. Et il va nous nourrir de quelques petites anecdotes et quelques petites sensations africaines.
Oui. Voilà. On va essayer en tout cas.
Voilà, on va essayer. D'autant que Thibaut, en plus, bon, j'attaque un peu de front aussi.
Allez,
d'autant qu'actuellement, au Burkina Faso, il y a quand même des événements très, très, voilà, qui sont quand même... tout récent et qui conditionne un petit peu l'avenir de ce pays qui est
effectivement qui est l'émission tourmente. Était programmée avant
voilà
mais
on l'a pas fait exprès mais bon
bien,
c'est tombé comme
heureusement
ça
heureusement ou malheureusement
voilà verra. Heureusement voilà donc Thibaut ce serait sympa de nous raconter un petit peu comment on peut arriver au Burkina Faso quand on est un jeune reporter quand on est voilà et comment on arrive dans ce pays par quel biais par quelle route via quel pays etc etc voilà.
Alors,
j'ai
essayé d'être le plus concis possible, en tout cas. Donc, moi, j'ai fait mes études à Sciences Po à Paris et à l'école de journalisme. Et en fait, entre mes deux années de master, j'avais fait un stage en Algérie. Et j'avais beaucoup aimé le fait de travailler dans un contexte francophone, parce que sinon, avant, j'avais passé un an à Hong Kong. Et j'avais trouvé que c'était des relations complètement différentes avec les gens. Et en Algérie, j'avais beaucoup aimé ce côté pouvoir travailler en français et aussi apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de son propre pays, qu'on apprend finalement assez peu en France, même en ayant fait une soi-disant grande école, etc., et des études dans les sciences humaines. Et donc, je savais qu'après après l'école de journalisme, je voulais travailler dans un pays francophone. Et j'ai regardé pour partir un petit peu plus loin que le Maghreb, où aussi le contexte est un petit peu compliqué pour travailler en tant que journaliste. Et j'ai regardé du côté des pays d'Afrique subsaharienne francophone, et notamment Sénégal, Côte d'Ivoire, qui sont des destinations un peu plus naturelles. Et puis, par hasard, je suis tombé sur un reportage sur le Burkina Faso qui présentait les enjeux de la transition, parce qu'on était en 2015 et c'était juste la chute de Blaise Compaoré et après la transition qui avait été mise en place d'un an. Et donc moi je suis parti là-bas en juillet 2015 et les élections devaient se tenir début octobre. Et en fait très rapidement j'ai été confronté au coup d'état du général Diendéré et puis après aux élections et puis après au premier attentat, etc. Enfin, on développera j'imagine tous ces événements, mais en fait J'ai été séduit par le reportage que j'avais vu et qui présentait les enjeux de la transition avec cette sorte de chape de plomb qui s'enlevait, des milliers d'associations qui étaient créées après les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, un dynamisme, les idéaux sankaristes aussi qui revenaient, révolutionnaires, etc. Enfin, le contexte vraiment particulier propre au Burkina Faso. Et puis après, en fait, j'ai regardé aussi les médias parce que je voulais travailler. C'était vraiment une volonté de travailler pour un média local et de travailler qu'avec des collègues burkinabés pour changer son approche. En fait, moi, mon idée, c'était d'arriver avec mes préjugés puis de repartir sans. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les médias pour lesquels je pourrais travailler là-bas. Et assez rapidement, je suis tombé sur l'Observateur Paalga, qui est le plus ancien journal d'Afrique de l'Ouest francophone en presse privée, qui a été fondé en 73 et qui a initié, si on peut dire, au Burkina, une sorte de tradition de grands reportages, de journalisme et une certaine liberté de la presse. C'est un îlot quand même en Afrique. Afrique de l'Ouest. Et même là, moi, ça surprenait beaucoup de gens quand je suis rentré. Je leur disais que au Burkina Faso, suivant le classement Reporters sans frontières en 2016 où j'étais là-bas, le Burkina Faso était devant la France. Hein. Le Burkina était 42e et la France 45e. Aujourd'hui, ils sont tous les deux autour de la 30e place. La France est légèrement repassée devant, mais ça surprenait aussi beaucoup de gens. Et en fait, cette histoire, ce journal qui s'inscrivait aussi, qui épouse l'histoire du pays, puisqu'il a été, incendié et puis interdit de 84 à 91. Et puis après, il a pu reparaître en changeant de nom. Donc au départ, il s'appelait l'Observateur. Puis l'Observateur Paalga, qui veut dire nouveau en mouret. Mmh. Donc le nouvel Observateur. Et il a pu reparaître en 91. Et depuis, il continue encore aujourd'hui, bon, malgré les difficultés de la presse au niveau mondial, etc., qui connaissent aussi au Burkina Faso. Mais du coup, c'était une expérience vraiment très, très intéressante. Très intéressante et enrichissante, aussi bien sur le plan professionnel, même si c'était des événements en partie dramatiques pour le pays, mais quand on est jeune journaliste, couvrir deux mois après avoir été diplômé un coup d'État, et puis après, quelques mois plus tard, des élections, des attentats, etc., c'était des événements historiques pour le pays dans un laps de temps très court. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce livre. Et puis aussi au plan personnel, après, comme j'habitais, c'était vraiment une volonté d'immersion. Donc, j'habitais dans une famille, dans des conditions locales. Donc,
oui, très locales, je confirme, ça se lit dans le livre. C'est très intéressant d'ailleurs. Voilà, et ce que je trouve intéressant aussi, Thibaut, c'est non seulement, comme par hasard, tous ces événements qui sont précipités à ce moment-là et qui donnaient une occasion pour un jeune reporter d'intégrer et une équipe locale et en même temps des événements. Et je dois dire qu'en même temps, je signale que Thibaut a été reçu par la saison des pluies quand il est arrivé. Et quand j'ai lu des passages savoureux où je me suis revue, moi, voilà, dans des conditions avec ces pluies torrentielles qui s'abattent, puis le soleil qui revient après, etc. Donc c'était vraiment un vrai baptême, quoi, à tous les niveaux. Baptême du feu avec les événements et baptême de l'eau avec la saison des pluies.
Effectivement, puisque le livre est écrit à la première personne pour, en fait, c'est principalement un artifice pour plonger le lecteur dans cette, qu'il arrive à s'identifier et que ça se lise un petit peu comme un roman. Donc le premier chapitre, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'actualité, il s'intitule Tropicalisation, et donc je raconte un petit peu comment j'arrive dans la famille, les premiers pas au journal, etc. aussi, et du coup pour que le livre se lise un petit peu comme un roman d'initiation, en fait, où j'arrive et même en l'écrivant après coup, un an après, quand je suis rentré, etc., j'ai voulu quand même retranscrire, et j'avais presque honte des réflexions qui me venaient à l'époque, des réflexions de blanc que je voyais. J'étais jamais allé dans un pays d'Afrique subsaharienne, et donc j'ai essayé de le retranscrire de la même façon que je l'avais vécu, pour qu'un lecteur qui, a priori, n'a pas d'affinité particulière avec l'Afrique ou qui ne s'intéresse pas forcément à ce contexte, en fait, s'y intéresse et soit plongé dans le récit. Donc, plongé au sens propre, comme voilà, figuré, apparemment. Donc,
oui, parce qu'il y a des fois, on peut plonger carrément quand il pleut. Hein.
Et oui, et là, en plus, je suis arrivé, c'était la pleine saison des pluies. Et comme je vous disais, comme j'étais dans des conditions locales d'habitat, en saison des pluies, souvent, les toits prennent l'eau. Et donc là, j'étais trempé à l'intérieur. On a passé la soirée à écoper, etc. Et donc, au début, c'est un petit peu difficile. Au début, on a envie de partir en courant et puis d'aller se réfugier dans un cocon un peu d'expatrié. Et puis, je me suis accroché. Et finalement, au bout de quelques jours, on oublie tous ces petits tracas parce qu'il y a beaucoup de choses
finalement,
qui prennent le pas, effectivement.
Ce ne sont que des détails, ce qui nous explique pourquoi la joie de vivre et la gaieté des gens qui vivent même dans des conditions, c'est ce qui nous lègue un petit peu, c'est ce qui nous donne, ce qui nous transmet. C'est-à-dire, à un moment, on arrive à faire la part de l'essentiel et tout le reste, parce qu'ils ont une patience, effectivement, quand on doit écoper et tout. C'est vrai que chez nous, ici, on va râler, on va appeler je sais pas qui, etc., on va insulter, alors que là-bas, on le fait, parce que c'est comme ça, parce qu'on doit le faire, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, et donc ça rentre, voilà. Et ça, je dois dire que c'est bien dans le livre, c'est très savoureux, parce qu'on y plonge dedans. Donc j'invite les gens vraiment à lire ce bouquin, quoi. Hein. On redonnera la référence à la fin, parce que vraiment... Hein, d'ailleurs, je vous invite, Guylaine, à le lire.
Mais je viens de l'avoir entre les mains,
voilà,
je me prêterai.
Je sais que vous l'avez, et après nous irons ensemble au Burkina Faso.
Volontiers. Alors, peut-être
avons-nous le temps de revenir sur les premiers propos que vous avez évoqués, Thibaut Bluy? J'étais attentive lorsque vous avez dit « Je suis arrivée en Algérie, mon intention était de comprendre l'histoire du pays ». Est-ce que c'est votre propre pays, la France, aux yeux des Algériens, ou est-ce que c'était vraiment d'ores et déjà l'envie de vous imprégner de l'Algérie avec ce qu'on connaît du passé colonial et de cette francophonie algérienne qui est peut-être... J'aimerais aussi que vous reveniez sur cet aspect de la francophonie algérienne et subsaharienne, dans laquelle peut-être vous voyez des détails. Donc il y a deux questions en une, parce que si je ne parle pas, oui, après Marie-Claude, elle parle et je ne peux plus passer. Donc voilà, j'ai deux questions en une, parce que j'ai trouvé ça intéressant, cette démarche, voir l'histoire. J'ai entendu mon pays, mais je ne suis pas sûre. Voilà.
Si, si, je vais essayer de hiérarchiser aussi ma réponse, mais effectivement, les deux contextes sont complètement différents. Alors, en Algérie, le passé de la France et le passé commun, quoi qu'on en dise, de la France et de l'Algérie, il est à tous les coins de rue. Et donc, moi, qui ne viens pas d'une famille de pieds noirs ou d'origine algérienne, qui est directement un lien avec ces événements, donc j'ignorais beaucoup de choses, même si j'ai fait des études en sciences sociales, j'aime beaucoup l'histoire, j'ai toujours beaucoup lu, je me suis intéressé à beaucoup de choses, mais cette histoire coloniale en France est assez méconnue pour des gens qui n'ont pas dans leur ADN familial, et donc vraiment je découvrais plein de choses, je me suis documenté aussi sur place, et j'ai appris finalement autant de choses presque sur l'histoire de l'Algérie que sur l'histoire de France, et donc j'ai trouvé que c'était assez paradoxal. Alors au Burkina Faso, c'est différent sur ce point de l'histoire, parce que le Burkina étant un pays enclavé qui n'a pas de façade maritime, faut se replacer dans le contexte. Le Burkina est devenu indépendant en 1960 sous le nom de Haute-Volta, qui était le nom de la colonie à l'époque. Et en fait, les moyens de communication n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'était compliqué d'y aller. C'était à plus de 1000 km d'Abidjan et de la côte. Donc c'était pas une colonie de peuplement finalement. Il y avait une administration et puis aussi les fameux pères blancs qui étaient là pour l'enseignement et puis la diffusion de la religion catholique. Mais du coup, c'était pas du tout la même emprise. Donc le contexte est vraiment différent. C'est pas du tout le même poids de l'héritage colonial et du coup la même perception aussi aujourd'hui du rapport à l'ancienne puissance coloniale. Et par contre, quand vous mentionniez le lien, le rapport à la langue, il est là, pour le coup, inverse. C'est-à-dire qu'en Algérie, c'est ce que Kateb Yassine appelle la langue française, le butin de guerre, finalement. Donc, il y a un rapport aussi paradoxal à la langue qui reste beaucoup la langue de l'ancien colonisateur. Alors qu'au Burkina Faso, le contexte étant très différent, puisqu'il y a 61 ethnies sur un territoire qui fait la moitié de la France métropolitaine en superficie. Et bien, du coup, il y a le français est, entre guillemets, le plus petit dénominateur commun pour communiquer d'une ethnie à une autre, bien souvent, ils n'ont pas d'autre langue que le français. Donc c'est pour ça que le français au Burkina Faso est la seule langue officielle. Et mes collègues à l'Observateur Palga, qui étaient tous burkinabés, ils parlaient français entre eux et en réunion, non pas parce que j'étais là, en fait, ils parlaient français parce qu'ils n'avaient pas, parfois, pas d'autres langues pour se comprendre.
Commune, en fait.
Voilà. Mmh. Et en fait, c'est au Burkina, le français est la langue de l'administration, de l'enseignement et de la plupart des médias. Donc, après, il ne faut pas oublier que c'est une langue qui reste aussi... Il y a à peu près 25% de locuteurs francophones au Burkina. Donc, c'est aussi la langue de l'élite. Et on y viendra peut-être tout à l'heure, mais quand on est à Ouagadougou, dans les villes, au Burkina Faso, on a un prisme, on voit les choses à travers un certain regard qui n'est pas forcément peut-être représentatif du reste du pays. Mais en tout cas, pour ce rapport à la langue, il ne faut pas oublier, et moi, je l'ai appris vraiment et ressenti au Burkina Faso, c'est qu'il y a aujourd'hui 300 millions de locuteurs francophones dans le monde, et on n'est que 67 millions à peu près en France, et en fait on se croit au centre de la francophonie. Alors souvent mes collègues me disaient non, la francophonie c'est pour nous, et vous les Français vous restez chez vous, vous n'avez pas à intervenir dans les instances en tout cas de la francophonie, etc. Et puis ils disaient on a notre français africain et on parle comme on veut, donc ils défendent par contre, et ça j'ai pu le vivre directement en travaillant pour un journal burkinabé établi depuis longtemps avec avec des correcteurs qui corrigent les articles. Ou moi, le premier article que j'ai écrit, il est revenu de la correction avec beaucoup de rouge, presque à moitié barré. Et donc, je vais voir les correcteurs en leur disant bah, « Je suis désolé, moi, sur votre respect, je suis français, c'est ma langue maternelle. Ça, je l'ai déjà lu, vu, écrit, entendu. Et puis là, il me sortait toutes les règles de grammaire. Et en fait, je me rendais compte qu'ils avaient raison sur toute la ligne. Et là, je me suis dit que j'allais beaucoup apprendre. Et effectivement, c'était le cas. Donc, non seulement sur une grammaire très exigeante, et puis après, des règles que moi-même, je ne connaissais pas, alors que pourtant, j'ai quand même fait 5 ans d'études, j'ai quand même l'habitude d'écrire, de lire, etc. Je suis... Et malgré ça, je me faisais reprendre. Et puis après, aussi sur le vocabulaire. Donc, il y a à la fois un français assez châtié, avec des mots que nous, on a oubliés, qui sont tombés en désuétude chez nous. Et tous les jours, quand je lisais le quotidien qu'on produisait, j'apprenais tous les jours 2 ou 3 nouveaux mots en français, on pourrait dire en bon français, quoi, des termes d'ancien français, etc. Et puis après, il y a des expressions soit traduites des langues, directement des langues locales, soit des néologismes qui sont inventés, etc., et qui enrichissent la langue. Et c'est vrai que vraiment, cette dimension linguistique me tenait à cœur. Et aussi, c'est la deuxième grande raison, au-delà du fond des événements, pour les retranscrire à un public, auprès d'un public français qui n'en avait pas forcément entendu parler. La deuxième grande raison, c'est aussi essayer de promouvoir une forme différente. Et effectivement, je dis souvent que j'ai appris à aimer la langue française au Burkina Faso, ce qui pourrait sembler un peu paradoxal, mais du coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce que j'ai essayé de retranscrire dans le livre. Et c'est pour ça que je l'ouvre par une citation de Nelson Mandela que vraiment j'ai ressenti sur place. Si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous adressez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous adressez à son cœur. Mmh. Et effectivement, c'est tout la différence entre la langue maternelle et puis une langue qu'on comprend. Et ça, je l'ai ressenti aussi directement. Je prenais la comparaison tout à l'heure avec l'Asie, mais aussi directement en Afrique subsaharienne, avec le Ghana, par exemple, où je suis allé passer une semaine au Ghana. Et même si je me débrouille tout à fait en anglais, je comprenais tout ce qui se passait, etc. Je pouvais interagir avec les gens. Mais dès l'instant où j'ai passé la frontière et là, les vendeuses m'accueillaient en disant « Ah, bonne arrivée !» Et en fait, en français dans le texte, hein, évidemment, et ben du coup, ça faisait vibrer une autre corde et ça créait vraiment ce rapport complètement différent avec les gens où, avec toutes les précautions oratoires que ça peut impliquer en termes de contexte, mais ça me donnait l'impression de me sentir chez moi, finalement, au Burkina, rien qu'avec ce lien linguistique qui est très fort.
Alors justement, bon, ils m'ont volé là. Claude. Je voulais en parler justement de la francophonie. Voilà, merci.
C'est pas trop tard. Vous êtes invité à la conversation.
Non, merci d'avoir posé la question. Mais justement, bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que le nouveau chef de l'État, le nouveau gouvernement qui vient d'arriver au Burkina, il a reproposé des textes et il a redit que la langue officielle est le français. Donc ça, c'est pour aller dans le sens qu'on a dit. Et par contre, pour être complètement d'accord avec Thibault, d'abord, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on oublie souvent que, effectivement, la francophonie, c'est pas les Français. Je pense qu'effectivement, la francophonie, c'est une richesse de notre langue. Bon, on peut prendre, par exemple, le Québec, où il y a encore, voilà, et comme dit Thibault, on redécouvre, et puis on découvre, et puis effectivement, on est dans une exigence de la langue que nous n'avons plus ici. Et j'ai fait rire Thibault l'autre jour, parce que je lui disais que, quand je vois les articles de journaux, bon, je suis férue du journalisme depuis toujours, quand je vois les articles de journaux et que je vois les faute qu'il y a, je dis, mais qu'ils aillent prendre des leçons là-bas. Vous allez prendre un article d'un journal, alors l'Observateur, si vous voulez, pas le gars ou un autre, vous allez prendre un article et je suis à jeun que vous ayez un problème de que vous notiez une faute d'orthographe. Donc effectivement, et ce qui est magnifique aussi, c'est que cette langue, non seulement ils la reprennent d'une façon très puriste, mais en même temps, ils nous la rendent en la personnalisant avec les images de leur pays, les expressions. Enfin, voilà. Et je trouve qu'il y a un enrichissement. Et puis, dernière chose, et là, je pense à Nathalie aussi, qui est notre... Et à d'autres, il faut lire la littérature africaine. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir des champs extraordinaires par rapport à notre langue. Et du coup, on va l'aimer peut-être autrement et plus profondément. Voilà, merci Thibault et merci Guylaine de nous avoir amenés sur ce chapitre-là.
Voilà. Alors je me disais, Marie-Claude, que dans les minutes qui nous restent, là, oui. J'aimerais un peu mieux identifier votre livre c'est bien l'objet de notre émission,
un peu, avant la deuxième.
Alors, je me demandais si c'était votre intention, finalement, en écrivant cela, c'était plutôt votre expérience au Burkina en tant que jeune journaliste, ou bien est-ce que c'était de retracer l'histoire du journal L'Observateur ?
Non, en fait, le livre n'était pas du tout un acte prémédité avant de partir au Burkina. Et même après un an, en revenant, je n'avais pas pour intention d'écrire ce livre, plutôt de repartir dans un autre pays africain ou ailleurs, et de repartir un petit peu en immersion de la même façon. Et tout simplement, je me suis rendu compte en revenant, en discutant avec beaucoup de gens, et notamment en faisant, j'aime beaucoup faire ça, du covoiturage en France, un petit peu partout. Eh bien, je me rendais compte que j'arrivais, enfin, les gens finalement n'avaient pas entendu parler de ces événements, mais s'y intéressaient quand je les racontais. Et en fait, ils s'intéressaient surtout à la façon dont j'avais couvert et les ressorts un petit peu narratifs que ça pouvait avoir. Et donc, c'est souvent la discussion se terminait en disant ah, bah, tu devrais faire un livre. Et au bout d'un moment, je me suis dit bah, pourquoi pas, effectivement, je suis journaliste, j'ai toujours aimé lire et écrire, bah, ça me semble naturel. Et je pensais, donc ça prendrait les deux mois d'été, finalement, ça m'a pris un an, je me suis pris au jeu. Mais c'était surtout cette réflexion-là de raconter aussi à travers une forme de narration nouvelle, parce que, bah, comme je vous le disais, les gens ne s'intéressaient pas. Si on leur dit, bon, si on leur fait un exposé factuel sur le Burkina Faso, alors pays indépendant en 1960 sous le nom de la Haute-Volta, etc., connu une succession de coups d'État. En fait, ça n'intéresse pas forcément. Ce qui intéresse, c'est, par contre, quand on est plongé dans le contexte à travers quelqu'un qui a vécu les événements et puis qui peut les raconter à la première personne, on se rend compte de ce que c'est un coup d'État, de ce que c'est des attentats, etc., quand il se passe à quelques centaines de mètres de soi. Et en fait, j'ai été assez influencé par le livre Eben de Kapuscinski, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un grand reporter polonais.
Non, moi, je connais Terre d'Eben, d'Albert Londres, mais pas Eben tout court.
Effectivement, ce n'est pas complètement les mêmes logiques et façons de raconter, mais en fait, Eben a été écrit par ce grand reporter polonais qui a vécu une trentaine d'années en Afrique à un moment charnière, donc un petit peu avant les indépendances, et puis jusque dans les années 90. Et on lui a demandé d'écrire un livre sur ses expériences, ses multiples expériences en Afrique. Et à chaque fois, il raconte un pays. Un chapitre, c'est un pays à un moment clé de son histoire, et il raconte comment lui a couvert les événements directement. Donc, c'est des récits de première main. Et moi, j'ai été bluffé par ce livre, parce que on est plongé en une vingtaine, une trentaine de pages dans un contexte, alors que même qu'on ne connaît absolument rien ou vraiment pas grand chose sur le pays au départ. On l'ouvre et quand on referme le chapitre, on a l'impression vraiment d'avoir appris quelque chose et d'avoir été plongé, d'avoir appris sans s'en rendre compte. Et parce que c'est écrit à la première personne comme un roman. Et donc, bon, moi, à ma modeste échelle, hein, c'est-à-dire sur un an, centré sur un pays, et probablement avec beaucoup moins de talent que Kapuscinski, mais du coup, essayer de reproduire ce schéma narratif pour essayer de plonger les gens dans ce contexte, et du coup, d'amener à comprendre un petit peu ces événements-là, etc. Et donc, c'est pour ça que la forme est un peu hybride. C'est une sorte de récit d'actualité à la première personne où je ne raconte pas, par exemple, le coup d'État, il a duré 7 jours, je le raconte jour par jour, et plutôt comment ça se passe concrètement, ou au début on ne sait pas le premier jour. Alors peut-être qu'on aura le temps de lire un passage sur le coup d'État, un peu en clin d'œil à l'actualité récente, parce que il y a quand même beaucoup de similitudes entre le coup d'État de 2015 et puis celui-là, a beaucoup de différences aussi. Mais du coup, dans l'ambiance, le premier jour, on ne sait pas vraiment qui a pris le pouvoir. On sait que il se passe quelque chose, que des militaires circulent dans les rues, dispersent les manifestations, etc., que le Conseil des ministres est pris en otage, mais on ne sait pas. Et puis finalement, le lendemain, on apprend très tôt à 7h à la télévision, en allumant par hasard, qu'il y a effectivement des militaires qui s'invitent sur le plateau et puis qui proclament un coup d'État en s'intitulant le Conseil national de la démocratie, alors même qu'ils viennent de faire un coup d'État, ce qui est un peu paradoxal. Et puis après, comment ça s'enlise, comment ils essayent de faire de, de, d'imposer leur ordre constitutionnel, enfin leur nouvel ordre, etc. Quelles sont leurs revendications? Comment aussi la rue se mobilise pour faire échouer le coup d'État? Quelles sont les tractations diplomatiques qui sont menées aussi? Et finalement, au bout de 7 jours, le coup d'État qui échoue. Et donc, avec le parallèle aussi avec aujourd'hui où la situation est différente. Et là, le coup d'État n'est pas... est peu contesté, en tout cas.
Oui, donc, c'est la plume d'un Burkinabé que j'ai lu hier qui disait « C'est le coup d'État le plus paisible et le plus tranquille de l'histoire. »
Effectivement, et c'est le clin d'œil...
Et il y a que ça peut se passer, cette chose-là.
C'est le clin d'œil au coup d'État de 2015 qui a été qualifié par Alpha Condé, qui, bon, lui aussi, est tombé, a été renversé depuis, mais il avait qualifié le coup d'État de 2015 de coup d'État le plus bête du monde, parce qu'on était à quelques semaines des élections. Et en fait, là, en miroir, il parle cette fois-ci de coup d'État effectivement le plus paisible, le plus facile du monde. Donc un petit peu pour comparer ces deux événements.
Tout à fait, ouais.
Mais après, du coup, le livre, donc, dans toute la première partie, s'attache à décrire cette actualité avec après, il y a un petit intermède pour respirer quand même entre deux événements assez lourds que sont le coup d'État et puis après les élections, la campagne électorale. Mmh. Donc il y a la respiration du Tour de Faso de cyclisme,
qui est une épreuve qui a été créée sous la Révolution, quand même, etc. Nationale, voilà.
Et puis du coup, qui pendant 10 jours fait le tour d'une bonne partie du pays. Et en fait, je l'utilise au-delà de la compétition sportive comme un artifice pour raconter un petit peu, sortir un petit peu de Ouagadougou et puis raconter un petit peu les différentes parties du pays, leur histoire, leurs différentes cultures, etc. aussi. Et puis après, y a le chapitre sur les attentats. Et j'essaie de mettre en perspective avec l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là aussi et le regard sur le phénomène terroriste qui n'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui puisque le phénomène a pris de l'ampleur. Moi, c'était le premier attentat. Là, il y a eu plus de 2000 morts à cause du terrorisme. Mmh. On entend beaucoup moins parler dans les médias occidentaux parce que c'est dans des zones reculées et que ça touche pas forcément des blancs. Mais du coup, ça 2000 morts et surtout plus d'un million et demi de déplacés internes sur un pays de 20 millions d'habitants. Mmh. Donc aussi, si on regarde la genèse de ce phénomène, ça permet de mieux comprendre aussi ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et puis après, il y a une série de différents sujets d'actualité que j'avais pu couvrir après dans une deuxième partie d'année où j'étais moins à couvrir l'actualité au jour le jour, mais plutôt à faire ce qu'ils appelaient des grands reportages. Donc, ils m'envoyaient pendant une semaine, 10 jours dans un coin du pays. Et puis, j'en revenais, je tirais des articles, un petit peu d'analyse. Et puis après, il y a toute la deuxième partie du livre qui correspond à des carnets de voyage pour essayer de prendre un petit peu plus de hauteur, de recul sur les différentes excursions que j'ai pu faire dans la sous-région ouest africaine. Donc après, il y a effectivement une partie sur l'ouest du Burkina, donc une excursion à Bobo Dioulasso et autour, que Marie-Claude connaît bien. Et puis après, sur les différents pays, dans les différents pays, donc Ghana, Bénin, Togo et puis Côte d'Ivoire aussi.
Oui, alors simplement, c'est vrai que ce livre, il est multifactoriel, je dirais, pour être factoriel, et que voilà, c'est à la fois un reportage un peu, où il y a vraiment tous les événements sont signalés, il y a un récit de vie, un récit d'intégration, un récit de vie avec les autres, et puis ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a des références historiques qui nous donnent quand même une culture. Moi, j'ai appris des choses, moi aussi, pourtant, voilà, et donc beaucoup de choses même, voilà, donc c'est intéressant, et puis la qualité d'écriture, quoi.
Bon, voilà. Tant mieux. Alors, c'est que ça semble réussi, et effectivement.
Et sans aucune flatterie, franchement.
Merci.
Quoi qu'il en soit, nous retrouvons Thibault Bully.
Oui, parce que comme
prochaine.
Toujours, on ne s'est pas tout dit, on malheureusement. Pas tout dit. Donc, voilà.
On se
et juste, je signale juste que le livre, donc, qui a reçu le prix du meilleur essai, Grand Prix du manuscrit francophone en 2020, est disponible dans toutes les librairies.
Dans toutes les librairies.
Et en France et au Burkina Faso aussi. Donc, il est disponible aussi là-bas. C'était une volonté.
Voilà, j'ai une amie qui l'avait acheté, qui l'a lu là-bas. Voilà. Merci Yann pour la technique.
Un reporter français au Burkina Faso de Thibault Bully aux éditions Laine. On retrouve Thibault la semaine prochaine.
Oui,
on se quitte en musique.
En musique, donc c'est une musique qu'a choisi Thibault. Hein, c'est Smokey, donc qui a été quand même un des leaders aussi de l'insurrection populaire.
Co-fondateur du Ballet Citoyen.
Voilà, et donc ça s'appelle, ça va pas vous étonner, Insoumission. Au revoir.
Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne écoute.
Je ne ressemble à personne. 2. Personne n'est mieux que personne. 3. De compte à rendre à personne. Donc comme j'ai dit tantôt, je ne me soumets à personne. Personne, même les vieilles putains des principes. personne ne les consomme sans condom. En somme, si le showbiz t'impressionne, bienvenue dans le temple, mon appendice fonctionne. Toujours au top du questionnaire, jamais ne manque de vocabulaire. J'ai les vertèbres bloquées depuis ma naissance, je tire toujours vers le haut ma révérence. Aussi vrai que petitesse n'est pas politesse, faiblesse n'est pas égale à sagesse. Un mouton ne paraîtra jamais que ce qu'il est. Moi je préfère être un chien et rester enragé.
Smoke ne se soumet à personne.
Une personne ne se soumet à personne.
Smoke ne se soumet à personne.
Une personne ne se soumet à personne. Une vraie.
À personne.
Une personne ne se soumet à personne. Une vraie.
Personne.
Une personne ne se soumet à personne. 4. Les nouveaux riches ont le contrôle. 5. Des arrivistes ont des monopoles. 6. Suffit d'une piscine, d'une parabole. Et ils veulent du respect comme au Capitole. Désolé, mais ce truc n'est pas une aumône. Le respect ne se donne pas à des couilles molles. Vos possessions vous dépossèdent des bricoles. Le respect ne viendra pas avec ta bagnole. Y'a ceux qui courent après les références, qui toute leur vie vont faire allégeance, ne supportent plus leur minable existence. Un pauvre type doit payer pour leur insignifiance. Alors, t'as eu un père à la maison, t'as donc une paire dans ton pantalon. Autant la solution dépend de l'équation, l'intromission dépend de la position.
Smoke ne se soumet à personne.
Une personne ne se soumet à personne.
Smoke ne se soumet à personne.
Une personne ne se soumet à personne. Une vraie. Une personne ne se soumet à personne. Une vraie.
Personne.
Une personne ne se soumet à personne.